un podcast France Culture.
Question du soir, Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Question du soir qui sera consacrée à la lutte et à la paix des âges. « 60% du patrimoine serait détenu par les plus de 60 ans. » À ces chiffres s'en ajoutent d'autres sur le niveau de vie, l'héritage, le taux de pauvreté, l'accès à l'emploi ou le poids de la participation électorale. Autant d'indicateurs qui pourraient laisser penser que les plus âgés d'entre nous seraient aussi les plus privilégiés. D'autant qu'à l'inverse, à l'autre bout de la pyramide des âges, les plus jeunes semblent faire face à toutes les difficultés. Alors la pauvreté a-t-elle changé d'âge ? Y a-t-il un lien de cause à effet entre la précarité des uns et le confort, aussi relatif soit-il, des autres ? Faut-il pour autant raviver la guerre des générations ? La question des âges a-t-elle remplacé la question sociale ? C'est le sujet de l'émission que nous vous proposons ce soir en compagnie de trois invités. Serge Guérin, bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement. Vous avez publié « Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?» Bonne question. Édition Michalon en janvier 2024 également. « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» C'était un livre publié avec Pierre-Henri Tavoyeux chez Calmant Lévy en 2017. À vos côtés se trouve Erwan Tison. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg. Vous avez publié récemment « Les retraites et l'équité entre générations, histoire d'un déni » avec Maxime Sbahi. C'était dans la grande conversation l'année dernière. Et enfin, Cécile Van de Velde, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'université de Montréal. Vous dirigez la chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie. Alors, en anglais, un article pas encore traduit, mais qui voudrait dire en français « Qu'avez-vous fait de notre monde ?» L'émergence d'une voie générationnelle mondiale et aussi sociologie des âges de la vie chez Armand Collin, c'était il y a quelques années. Merci à vous trois d'être venus à Question du soir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à ce qu'on appelle la génération dorée ?
Non, absolument pas.
Dorée ?
On travaillait énormément d'heures. Alors, est-ce que nous, en tant que retraités maintenant, on ne pourrait pas reprocher à ceux qui travaillent maintenant d'avoir un travail et des aides dorées par rapport à ce que nous avons eu avant? La seule chose que je veux reconnaître, c'est qu'on avait plus de travail que maintenant.
Maintenant, il y a moins de travail,
oui.
Mais ils sont encore plus difficiles pour accepter le travail.
On est toujours fiers de quitter la maison, et après, quand on revient, on vit chez papa-maman, c'est surtout si on revient et qu'au final, c'est parce qu'on n'a pas de travail. C'est, on se dit, on a loupé quelque chose quelque part, quoi.
Ce qui est vraiment décevant, c'est d'avoir dépensé autant pour des études. Parce que maintenant, de toute façon, pour avoir des bonnes études, il faut mettre la main à la poche.
Et tu vas trouver.
Heureusement qu'on est là.
Le GIEC dit qu'on est à un scénario à plus de 2,7 degrés à la fin du siècle.
D'augmentation des températures
dramatique.
Planétaires.
On parle d'apocalypse. Moi, je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement, qui va vivre...
Ben merci pour nous. Hein.
Non, mais... désolé.
C'est super sympa. Mais, c'est la génération. Pour la réalité,
alors que les deux boomers à côté de moi...
C'est sympa.
Ok, boomer.
Génération dorée, génération effondrement. Alors, avant de commencer cette conversation, une dernière petite donnée, et puis je vous laisserai ensuite le plaisir de nous donner des chiffres tout au long de cette émission. Mais la France figure sur deux podiums de l'OCDE. Celui des pays où le niveau de vie des retraités est le plus élevé par rapport à l'ensemble de la population, et celui où le temps passé à la retraite est le plus long. Alors, on parle de salaire, de retraite. On a entendu, là, dans les petits extraits de reportages que nous avons montés, qu'on parle aussi d'accès au travail, de difficultés de rendre les études payantes d'une certaine manière. Erwan Tison, est-ce qu'il existe aujourd'hui un déséquilibre entre les générations ?
En tout cas, il y a un déséquilibre perçu. Donc, s'il y a perception, c'est qu'il y a quelque part peut-être aussi des choses tangibles à évaluer derrière ça. Il y a une chose qui est assez intéressante dans votre reportage et qu'on voit dans beaucoup de reportages aussi, c'est la qualité de vie perçue, notamment d'une partie de la jeunesse. Alors, ça peut aller de la fin de la génération X à la génération Y, en passant jusqu'aux millennials. Après, je laisserai chacun segmenter. Chacun, de toute façon, veut appartenir à la bonne génération, celle en tout cas celle dans laquelle il se
X
sent le plus.
X sont ceux nés à la fin des années 80, voilà, Y 80. Tout à fait. Millennials à partir des années 2000.
Qui ont toutes des problématiques là aussi différentes. Mais en fait, quand on regarde la plupart du temps, il y a une perception de se dire, je n'ai pas l'impression que je vais vivre aussi bien qu'ont vécu mes grands-parents ou qu'ont pu vivre mes parents. Alors que ça, c'est d'un point de vue plutôt économique et social. Pourquoi ? Parce que on remarque effectivement, on a des salaires aujourd'hui qui sont extrêmement faibles par rapport justement à ce qui aurait pu y être il y a 40 ans. Je rappelle les travaux d'Antoine Fouché, hein, qui nous disait que dans les années 70, bah, vous doubliez votre salaire d'à peu près tous les 10 ans. Aujourd'hui, il faut 80 ans pour doubler votre salaire. Donc quelque part, quand vous entrez sur le marché du travail au SMIC, eh ben malheureusement, vous en sortez à 1600, 1700 euros. Donc vous passez votre vie, en fait, vous êtes cloisonné quelque part dans la même catégorie socio-professionnelle. Et donc, là-dessus, derrière, en découle énormément de choses, qui sont le manque d'accès à la propriété, ou encore même à la location. Donc derrière, vous avez des difficultés à créer des familles, vous avez des difficultés aussi à accéder aux loisirs, alors que quand vous regardez la population, en tout cas le rythme de vie qu'avaient vos grands-parents, bah ils accédaient à la propriété en moyenne à 26 ans, achat d'une maison secondaire à 32 ans, vous aviez effectivement donc toutes les hausses salariales dont je parlais avant. Donc il y a cette dimension...
Mais là, c'est pas que du ressenti ce que vous nous décrivez, ce sont quand même des réalités. Le salaire impossible à doubler,
c'est pour ça que je dis que c'est du
âge de l'accès à la propriété.
Quand je dis que c'est du ressenti, c'est du ressenti, parce que c'est du ressenti de manière global, mais c'est du réel sur des questions économiques et sociales. Après, on pourrait m'offusquer, on pourrait m'opposer en disant, mais c'est une génération qui va vivre extrêmement vieux grâce au progrès de la médecine, qui connaît des divertissements à coût marginal zéro et qui, du coup, a accès en fait à une dose d'information et accès à des choses que n'avaient pas ses grands-parents. Là où je dis en fait que c'est ce sentiment-là, c'est que ce sentiment-là, c'est celui qui anime de plus en plus d'actifs, qui voit bien que malgré le fait de faire des études aujourd'hui, et c'est en ça que la promesse républicaine est rompue par rapport aux années 70-80, malgré le fait d'investir dans le capital humain, bah, ça ne suffit pas aujourd'hui à accéder à ce qui faisait quelque part le sel de la vie de tous les jours avant, c'est-à-dire pouvoir jouir de son propre travail, se loger et fonder une famille sereinement.
Alors, pacte républicain, Cécile Van Develle, qu'est-ce qui fondait le pacte entre les générations jusqu'à aujourd'hui ? Et est-ce que vous êtes d'accord lorsque Erwan Tison nous dit que ça ne fonctionne plus ?
Alors, je suis complètement d'accord que ça ne fonctionne plus, notamment en termes d'affect, en termes de ressenti. Il y a un sentiment d'injustice qui est en train de monter, d'injustice entre générations. Alors, en France, il est particulièrement marqué. Je le vois monter dans le monde entier. J'ai fait des enquêtes sur les mouvements sociaux de jeunesse et sur les jeunes dans différents endroits de la planète cette dernière décennie. Et je vois monter un discours d'injustice entre générations qui, au début, était uniquement économique et sociale, mais qui devient de plus en plus large sur les questions environnementales. Et on voit aussi l'accusation envers les générations aînées être de plus en plus directe et de plus en plus frontale, avec par exemple des slogans qui vont émerger, alors notamment dans les mouvements environnementaux, mais pas que, aussi dans des mouvements plus politiques, plus économiques et sociaux, comme « vous mourrez de vieillesse, mais nous on va mourir de détresse » ou « vous avez volé notre avenir ». La question de l'avenir est vraiment très portée avec ce concept aussi des générations futures, que par exemple les jeunes adultes vont dire « je milite pas pour moi, je milite pour les génération d'après. Donc ce sentiment de déséquilibre générationnel, il est mondial. Mais c'est vrai qu'en France, dans les enquêtes, en tout cas dans les discours que je peux recueillir, il est particulièrement marqué. Parce que justement, on a explicité cette chaîne générationnelle par notre système de redistribution des retraites et de redistribution des richesses, qui crée explicitement une chaîne. Qui crée explicitement...
Il faut expliquer, parce qu'effectivement...
Cette idée que les actifs
la majorité
pour
de nos auditrices auditeurs sont experts en retraite avec tous les débats qu'il y a eu ces dernières années. Mais oui. Tout de même, c'est-à-dire que actifs payent directement pour les personnes qui sont retraitées au moment où on paye nos cotisations.
Exactement.
Pour les retraites. C'est pas une capitalisation, des sous qu'on met de côté. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a une différence là-dessus ?
Alors, en ce moment, il y a une différence, parce qu'il y a comme justement, il y a toute cette perception qui est aussi liée au réel, parfois qui est parfois presque disproportionnée par rapport au réel, mais il y a quand même, en termes d'affect, moi j'entends très fort le discours des portes fermées, du plafond de verre générationnel. Il est très difficile de percer, d'accéder. L'horizon de l'autonomie est vu comme très lointain. La famille est parfois perçu comme un luxe, avec le poids de la famille d'origine qui est vu comme prépondérant, et on le voit dans les statistiques aussi, il pèse de plus en plus pour cliver les trajectoires. Et ça, c'est très intériorisé. Et donc, par exemple, l'idée de participer à des droits pour les générations aînées, sans les accuser forcément directement, mais auxquels les jeunes adultes eux-mêmes n'auront pas droit, puisqu'il y a quand même un voile de fumée, une incertitude sur les réformes futures. C'est vrai que ça participe de cette tension potentielle entre générations. Mais je crois que ce qui est vraiment le sel du sentiment d'injustice, c'est l'épreuve du devenir adulte. On a hiérarchisé fortement les âges en France, et la jeunesse, plus qu'ailleurs, est perçue comme un investissement. Et donc, il y a un investissement à la fois social, économique, existentiel, dans les études, dans ce temps de la jeunesse, mais les perspectives sont effectivement très lourdes, très vues comme extrêmement difficiles. Et dans cette tension, il y a une crise de sens. Il y a une difficulté à la fois à trouver sa place et à gagner sa vie. Et donc, c'est vrai que ça alimente une conscience de génération. Moi, j'entends un « nous » générationnel qui émerge, change. Par contre, il est rarement accusateur des générations aînées. Il se traduit pas en conflit. Il se traduit davantage en colère contre le système. Et c'est la colère contre le système aujourd'hui.
Et on va y revenir. Hein, okay. Comment est-ce que ces tensions, ces sentiments d'inégalité se traduisent ensuite en mouvement politique ou en revendication contre le système ou contre les générations précédentes. Avec tout ce qu'on a dit, Serge Guérin, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on entendait de cette génération dorée, génération gâtée, pour ces baby-boomers nés après les années 50 ?
La première chose, c'est que je suis de plus en plus interrogatif sur la notion même de génération. J'en ai fait mon sel intellectuel.
On parlait beaucoup de sel ce soir.
Oui, c'est vrai. Pourtant, je suis plutôt bec sucré. Mais bon, voilà. Carmanheim, tout ça. Mais aujourd'hui, enfin, quand on dit la jeunesse, pour moi, ça veut strictement rien dire. Il y a plein de manières d'être jeune, et sans doute qu'il n'y a jamais eu autant de différences, d'hétérogénéité entre les gens de à peu près du même âge. Alors, ça peut être la question géographique, par exemple. Vous prenez le car à 5h30 du matin pour aller au collège. À 12 ans, c'est pas pareil que vous traversez la rue pour aller au collège, par exemple. Et l'accès à un centre d'équipement n'est pas le même, ainsi de suite. Évidemment, vous êtes dans un milieu plutôt favorisé, soit financièrement ou intellectuellement, ou ainsi de suite. C'est pas la même chose. Vous avez fait des études. Alors aujourd'hui, il y a la question des études sur laquelle on pourrait revenir. On a fait une promesse, je crois que vous avez utilisé le terme de promesse républicaine. On a raconté des fariboles aux gens. 80% d'une classe d'âge au bac, génial. Bah, du coup, bah, j'ai le bac et je suis pas un matheux, mais quand 80% ont le même diplôme, au-delà du fait que le diplôme n'est pas du tout le même qu'il y a 30 ans, 40 ans, ainsi de suite, il vaut pas la même chose. Et l'attente n'est pas la même. Et du coup, les gens disent, bah, j'ai le même diplôme que mes parents, mes grands-parents, je sais pas quoi, et j'ai pas la même chose. Mais oui, quand 80% ont la même chose, évidemment, ça donne pas accès, par exemple, aux mêmes éléments. Voilà. Donc, il y a plein de différences. Il y a évidemment des différences culturelles, religieuses. Enfin, voilà. Il y a aujourd'hui.
Donc ça, ce sont les différences intra-générationnelle.
Exactement. Mais du coup,
à l'intérieur
dire
des générations vieux, elles-mêmes.
Ouais. À mon sens, ne veut plus rien dire du tout, parce que les gens vivent pas du tout la même chose. Et pareil sur les plus âgés. Alors, je dis vieux, ça va peut-être choquer certains de nos auditeurs. C'est un mot qui est pas un mot méchant, qui est un mot être vieux. Oui, prendre de l'âge, mais on pourrait dire senior, aîné, tout ce qu'on voudra. Il y a aussi le politiquement correct, il y a des mots à pas dire. Ainsi
vous pouvez dire, jeune, vieux autour
oui,
de
voilà,
ce plateau,
dire,
si vous avez
voilà.
envie
mais chez les vieux,
à Serge
alors, quel âge on les fait démarrer, c'est encore une autre affaire. Je rappelle que dans l'entreprise, on est senior dès 45 ans. Donc là aussi, alors, les gens qui ont 44 ans et demi qui nous écoutent, là, ils ont très mal.
Alors, est-ce que, voilà.
Mais,
pour autant...
Donc il y a des diversités aussi
diversité.
Énormes. Et par exemple, sur la question économique, puisqu'on est beaucoup allé là-dessus, à raison. Et alors, vous avez parfaitement raison. Un, les seniors sont ceux qui sont globalement les plus propriétaires. À peu près 75% des
75%
seniors.
Des plus de 55 ans. Ouais. C'est-à-dire, non, c'est l'inverse. En fait, c'est-à-dire que 75% des propriétaires en France ont plus de 55 ans.
Alors, j'en sais rien, mais en tout cas, les seniors sont à 75% propriétaires. Voilà. Et donc, je rappelle qu'il y en a quand même 25% qui globalement vivent en grande partie en HLM. 35% des gens qui vivent en HLM sont des seniors. Hein, donc... c'est pas parce que je suis par exemple propriétaire. En France, on calcule. Alors, je suis pas économiste, mais dans les pouvoirs d'achat et tout ça, on compte quand on est propriétaire. Ben, du coup, on a plein de dépenses en moins. Ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que tout le monde n'est pas propriétaire d'un 100 mètres carrés en centre-ville.
Alors, attendez.
Quand vous avez une petite maison avec des fuites de partout, vous êtes enfermé. Quand vous essayez de la vendre, y compris pour payer votre maison de retraite, personne ne vous la rachète. Et elle vaut 35 000 euros. 35 000 euros, ça vous fait pas longtemps en maison de retraite, par exemple. Vous voyez. Donc là aussi, tout. Même ça se concentre en grande partie chez les seniors. Au sein des seniors, c'est là où sans doute il y a la plus grande disparité de revenus
alors,
entre les catégories
un instant,
seniors.
Serge Guérin, parce que ce que vous dites est très intéressant, c'est-à-dire que finalement ce serait même penser les catégories à travers les âges, et c'est exactement le thème de cette émission, ne serait pas une bonne manière d'approcher les choses. Je vois que Cécile Van de Velde souhaite absolument réagir. Je voudrais juste tout de même vous poser une petite question, Serge Guérin. On a quand même un sentiment d'inversion des indicateurs. Si on prend par exemple le taux de pauvreté, le taux de pauvreté était concentré dans les années 70 chez les personnes âgées qui touchaient principalement des petites retraites ou qui ne touchaient pas de retraite du tout. La pauvreté est désormais plus répandue chez les jeunes. 10% chez les 18-29 ans, 4,3% chez les plus 65 ans. Pour vous, il n'y a pas de lien de cause à effet et ça ne permet pas, ce type de lecture-là, cette lecture de l'inversement ne permet pas de approcher cette question-là en approchant d'une question générationnelle pour vous, c'est
ça
pas
suffit
efficace.
Pas. C'est un élément. Alors déjà, mais peut-être parce que je suis un vieux con, moi je pense que la question sociale est bien plus importante que la question des âges. Ça c'est premièrement. Deuxième élément, si on reste juste là-dessus, déjà je vais vous dire une chose bête, mais quand on n'est pas riche à 20 ans, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir que quand on n'est pas riche à 85 ans. par exemple. C'est que par ailleurs, je rappelle que pour les femmes, la retraite est 40% inférieure. Donc, ce qu'on ne retrouve pas chez les plus jeunes. Donc, il y a aussi des éléments, là aussi, de dynamique. Encore une fois, mais c'est une réalité. Et grâce, entre autres, parce qu'on a augmenté les retraites et tout ça, est-ce qu'il faut continuer? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y a une différence et qu'il y a plus de pauvreté chez les plus jeunes.
C'est
mais pour autant...
Mais
pour autant, ça ne veut pas dire que tous les jeunes seraient pauvres, tous les vieux seraient riches.
Très bien, ouais. Sylvain Devalaise.
Je suis complètement d'accord et en même temps, j'ai envie de dire que les deux ne doivent pas s'opposer. La question sociale et la question des âges vont ensemble. Et donc, c'est pas parce que effectivement, à l'intérieur des vieillesses et à l'intérieur des jeunesses, c'est très polarisé et que bien sûr qu'il y a des vieillesses qui sont touchées par des grandes franges de pauvreté également dans la jeunesse. Mais pour moi, il faut pas les opposer. Ça va de pair. On a un double mouvement depuis 2-3 décennies. C'est un mouvement à la fois d'accroissement des inégalités intergénérationnelles, donc entre générations, donc le fait générationnel existe, puisque justement il y a quand même au niveau des catégories d'âge, des clivages qui sont de plus en plus structurants pour comprendre notre société, donc on peut pas nier la question générationnelle, mais je suis complètement d'accord avec vous qu'elle va de pair avec la question sociale. Et par exemple, ce qui définit aujourd'hui les jeunes, génération, c'est aussi les inégalités. C'est que cette jeune génération, elle a un niveau d'inégalité qui avait jamais été atteint. Alors, en tout cas, dans ce qu'on a pu mesurer, à l'intérieur, elle est polarisée. Et par exemple, moi, dans les discours, la compétition, puisque justement, il y a une pénurie de postes, en tout cas, une pénurie de postes réelle et très perçue, et avec une pression sociale, il y a une mise en compétition. La compétition est une épreuve vécue très fortement par les jeunes adultes aujourd'hui, et elle répond aussi à ces inégalités intragénérationnelles. Et les deux vont ensemble. Donc je suis d'accord qu'il y a une question sociale qui est forte, prépondérante, mais elle ne doit pas gommer et aveugler, parce que ces inégalités générationnelles, elles sont plus difficiles à nommer et à voir, parce qu'elles sont invisibles, on les mesure moins facilement, il y a toujours cette question sociale qui revient. Or, en fait, elles existent, et on doit penser les deux ensemble, sans justement, la société française fabrique des âges fragiles. La vieillesse fait partie de ces âges fragiles. Mais que justement, il faut penser à la fois les inégalités sociales inter- et intragénérationnelles. Et aujourd'hui, par exemple, les jeunes vulnérables sont touchés à la fois par un fait générationnel très fort sur leur trajectoire. Il est difficile aujourd'hui d'accéder à l'âge adulte et d'accéder à l'autonomie en France. Et en même temps, ils sont soumis à des logiques de compétition dans laquelle ils perdent. Donc, ils se sentent en plus en échec avec une intériorisation de cet échec, avec des inégalités que vous avez nommées, raciales, territoriales, genrées, etc. Mais c'est vrai que les deux, pour moi, doivent être pensés ensemble et pas mis en opposition.
Erwan Tison, la question générationnelle, alors, peut-être elle se superpose à la question sociale, sans la remplacer, mais en la recouvrant?
Je pense qu'elle est en train de, toujours dans cette question de ressenti de la part de pas mal de classes d'âge, je pense qu'elle est en train de la remplacer. Pourquoi? Parce que vous avez, aujourd'hui, je reprends quelques chiffres. Quand vous avez, par exemple, la question, notamment, on a parlé avant des retraites. Là, on est dans un système par répartition. D'ailleurs, c'est très rigolo d'entendre, très cocasse d'entendre dans votre son avant, vous avez des retraités qui vous disent j'ai cotisé, j'ai droit. Oui, mais vous n'avez pas cotisé pour votre propre retraite. Peut-être aussi un mensonge qu'on a eu collectivement depuis plus de 60 ans et qui fait qu'en fait, non. Personne n'a cotisé pour sa propre retraite. On cotise toujours pour les autres. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que regarde un actif? Un actif, il voit qu'il cotise 28% de son salaire brut. Donc, pour illustrer, pour une infirmière à 1800 euros, c'est à peu près 800 euros par mois qui sont cotisés, alors que son épargne à elle est à peu près de 80 euros. Donc, elle va cotiser 10 fois plus que ce qu'elle va épargner pour elle-même, pour entendre quoi? Pour entendre après un système de retraite qui, en plus de ça, est déficitaire, avec en plus une génération qui est partie à la retraite à 60 ans, alors que elle, ses perspectives seront plutôt 64, 65, 67 ans selon son niveau d'études. Et en plus de ça, elle voit, l'INSEE nous l'a appris il n'y a pas longtemps, que les retraites en question sont épargnées à plus de 25%. Donc sur les 800 euros qu'elle cotise de manière forcée, en tout cas volontaire, involontaire tous les mois, et ben il va y avoir un quart, donc il va y avoir 200 euros qui seront épargnés par les 10 retraités en question. Donc c'est pour ça que, et en parallèle, l'infirmière, comme toute autre personne sur le marché du travail, ben elle a effectivement un pouvoir d'achat immobilier qui est très contraint. Je rappelle quand même que le pouvoir immobilier, ça c'est l'INSEE qui nous le rappelle, en 20 ans a été divisé par deux, donc c'est-à-dire que pour une personne, pour un ménage de moins de 40 ans, ben concrètement c'est 25 mètres carrés, c'est quoi? C'est deux pièces. Deux pièces, c'est quoi? C'est deux enfants. Et quand on regarde les baisses de natalité, on retrouve à peu près cette contrainte immobilière qui s'exprime sur la baisse de la fécondité. Donc, il y a toute cette logique-là qui se dit, moi, même si on croit profondément à la solidarité entre les générations, on se pose la question de se dire, mais à quel moment est-ce que moi aussi je vais pouvoir avoir ce petit déclic, ce petit coup de pouce, juste de fait de pouvoir vivre de mon propre travail pour pouvoir moi aussi accéder à cette propriété et pouvoir vivre de mon propre revenu.
Il y a un mot, parce que là vous parlez justement du niveau de salaire qui est donné pour pour cotiser pour les retraites. Il y a aussi des chiffres récents, hein, pour la première fois en France, le niveau de vie moyen des retraités est égal ou supérieur au niveau de vie moyen des actifs, des personnes ayant un travail en France qui ne sont pas à la retraite. Il y a un mot qui circule, c'est celui de gérontocratie. Alors je vous le mets là au milieu de la table, Erwan Tison, est-ce que vous pensez que lorsque vous dites, pour moi, la question générationnelle est en train de remplacer la question sociale, est-ce que pour vous il s'agit d'une gérontocratie en cours?
Oui, et là, moi j'ai pu la première fois que j'ai travaillé sur ce sujet-là, c'était en 2016, j'ai retrouvé un papier il n'y a pas longtemps, je n'en changerai pas un mot. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui, tout est fait justement, les décisions publiques, les décisions politiques sont faites en direction des seniors. C'est absolument aucun jugement de valeur, c'est un constat. Je vous prends un exemple très criant.
Peut-être aussi un fait électoral.
Ben, c'est justement, c'est ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que vous avez la majorité du corps électoral qui a plus de 55 ans. Et ça, c'est un fait inédit dans
l'histoire.
Depuis janvier 2025, vous avez la majorité des électeurs sont des seniors. Donc, et en plus des retraités. Donc, mécaniquement, vous avez de la part du politique qui est pas fou, qui veut se faire élire, bah, une appétence à aller là-dessus. Le gros problème, c'est qu'on a effectivement un allongement de la durée de la vie qui fait qu'on va avoir de plus en plus de vieux. La France est un pays qui vieillit énormément. Et donc, toutes les décisions politiques sont prises en fonction de cette offre électorale-là. Un tout petit exemple, la réforme des retraites, dont beaucoup d'entre nous ont parlé, débattu à l'époque, qui a mis beaucoup de monde dans la rue, prévoyait de nous faire économiser 15 milliards d'euros. Ces 15 milliards d'euros-là, l'économie a été, excusez-moi l'expression, cramée le 1er janvier d'après, en revalorisation des pensions de retraite. Et je passe sur les trois revalorisations qu'il y a eu depuis.
Mais on peut se réjouir que les retraités ne soient plus pauvres aujourd'hui.
Alors, la question, c'est on peut se réjouir. Est-ce qu'on peut se réjouir de se dire que dans une période budgétaire contrainte où on est obligé de sabrer dans le budget de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de le développement durable, de l'écologie et du CNRS, parce que justement on n'a plus les moyens de. Alors après, on pourra parler d'efficacité de ces dépenses-là, mais quand on voit qu'on est en train de saper sur des dépenses d'avenir, parce que justement on est obligé de financer des retraites qui en plus la plupart du temps mobilisent aussi une partie de notre endettement. Aujourd'hui en France, on s'endette publiquement pour financer nos retraites. Bah, la question justement, c'est de se dire est-ce qu'on est dans une gérontocratie ? Pour moi, ça suffit à dire que oui, parce que les dépenses publiques aujourd'hui sont massivement ventilées vers les seniors et non plus vers les jeunes.
Vous êtes d'accord, Serge Guérin ?
Je ne serais peut-être pas totalement étonné si je serais plus nuancé. Gérontocratie, vous vous souvenez d'un garçon qui s'appelle toujours François Hollande et qui disait « je serai le président de la jeunesse ». Et comme il a l'humour un jour pendant sa campagne, j'ai dit « oui, c'est sûr qu'être président de la vieillesse, c'est moins vendeur ». Voilà. Et aucun politique n'a fait carrière sur les vieux. Donc moi, je vois bien qu'il y a la gérontocratie. Mais enfin, depuis le rapport Larocque 1962, où il a dit qu'il faudrait peut-être qu'on s'occupe du grand âge, rien n'a été fait. Donc d'un côté, il y a peut-être plus d'électeurs, tout ce qu'on voudra, mais aujourd'hui, on n'a rien préparé pour le grand âge, pour la perte d'autonomie, pour la dépendance, pour les EHPAD. Voilà. Donc tout ça, la cinquième branche proposée en 62 a été votée en 2020. Et toujours pas financée. Donc, je serais beaucoup plus nuancé sur cette affaire-là. Donc il y a première réalité, me semble-t-il. Deuxième réalité, on disait, on peut toujours chercher, c'est pour ça qu'en effet, moi je cherche pas du tout à opposer, mais peut-être parce que j'ai une vision camusienne des choses et tout ça, et peut-être j'ai complètement tort, mais moi j'essaie de pas opposer parce que je pense qu'on est dans le même bateau. Vous parliez du bouquin que j'ai fait sur la question écologique, en disant, toute une partie des jeunes, alors vous parliez tous ces jeunes, tout ça, enfin c'est 20% des jeunes qui seront impliqués dans l'écologie. Et ceux-là, ouais, ils arrêtent pas de dire, non mais c'est à cause des vieux. Ça me paraît très très limité, et la question c'est plutôt est-ce que on est dans le même bateau, est-ce qu'on va être capable ensemble de faire un travail autour de ça. Puis après on peut toujours trouver en effet telle chose c'est plus facile que ça, mais enfin quand dans les années 80 on démarrait c'était 9% de taux de chômage. En 2008, c'était 12% de taux de chômage. Donc il y a des gens qui ont connu, aujourd'hui c'est 7%, des gens qui ont connu des taux de chômage dans leur jeunesse sérieusement plus importants qu'aujourd'hui. Donc par exemple, on pourrait passer notre vie, les gens ont, globalement, ceux qui sont à la retraite, ils ont travaillé 4 ans de plus que ceux qui seront en retraite dans 30 ans, parce que par les 35 heures, et ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut être beaucoup plus nuancé. Pour autant, il y a des réalités, et il y a de l'argent à remettre, et ainsi de suite. Et ça n'empêche pas de se poser la question, par exemple, que vous disiez très bien. Bah, moi, j'étais fasciné qu'au moment de ce débat sur la retraite, il faut revenir à 60 ans, à 62 ans, il y avait quand même des... Alors, c'était aussi pour pas aller en cours, mais il y avait quand même des jeunes qui marchaient dans la rue pour la retraite à 60 ans. Tu dis, t'as que ça à faire à 17 ans, de penser à la retraite à 60
là,
ans.
On rentre dans un débat qui
mais,
est...
Oui, non, mais, vous voyez, mais donc, et c'était des jeunes. Alors, c'est ce qu'ils se faisaient avoir par gérontocratie, peut-être. Il y avait des leaders qui avaient largement dépassé les 70 ans, qui imaginent toujours se présenter aux élections. Ce sont les mêmes qui vont dire qu'il faut la retraite à 60 ans. À un moment donné, il faut être un peu... Donc, en effet, il y a une réalité. Alors là, pour le coup, il me semble assez clair, on vit plus longtemps, et c'est très bien. Et je rappelle aussi qu'on vit plus longtemps et que l'espérance de vie en bonne santé, elle augmente plus vite que l'espérance de vie tout court. Donc, il y a une logique, par exemple, à travailler plus longtemps. Et il y a aussi certainement une logique à réfléchir, par exemple, sur l'abattement de 10%, sur des choses comme ça.
Bien sûr, alors là, voilà. Vous parlez de ça, et je pense qu'on ne va pas refaire un débat sur les retraites ce soir, mais on voit que ça cristallise cette question de la solidarité.
Comme vous le disiez très bien, c'est quand même un élément très important du coût social global. En rappelant quand même qu'une grande partie, ce n'est pas l'État gentil qui a donné de l'argent. C'est quand même les gens, en effet, qui n'ont pas cotisé pour eux, mais qui ont de fait cotisé. Donc il y a aussi cet élément-là.
C'est Sylvain Devel, il y a une expression du sociologue Louis Chauvel qui nous a beaucoup plu à Question du Soir, c'est cette idée de destin des générations, comme si l'année de naissance était devenue un facteur structurant comme l'origine sociale, comme le niveau de diplôme, pouvait dessiner une trajectoire de vie.
Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, on pourrait parler aussi de l'impact du Covid. Parce qu'il y a eu, quand on parle de destin de génération, en fait, par exemple, celui qui a théorisé les générations, donc à la fin des années 20, donc Karl Mannheim, lui, ce qu'il dit, c'est qu'une génération n'est pas définie par son année de naissance, mais elle est définie par une expérience commune. Et que les périodes de déstabilisation sociale, économique, politique vont avoir tendance à favoriser justement ce qu'il appelle une condition de génération, donc en fait, une expérience commune qui va mener à une conscience commune de génération. Et donc, comme j'ai déjà dit, c'est vrai qu'on sent que cette conscience commune de génération est en train de monter en France, dans le monde, en France particulièrement, mais dans le monde aussi. On voit que c'est vraiment un phénomène tout à fait global. Et on peut parler quand même aussi que ça a été cristallisé par l'expérience de la crise sanitaire. Donc, notamment en France, où il y a eu cet effet un peu de révélation. Devenir adulte en France pendant la crise sanitaire, c'est en fait avoir non seulement perdu une forme de présent, mais aussi devoir reconstruire son avenir. L'épreuve a été extrêmement marquée. Or, il y a eu effectivement, comme vous mentionnez, il y a eu des mots de reconnaissance politique. Mais les actes, les politiques publiques n'ont pas vraiment suivi pour reconnaître l'adversité sociale, économique, politique que connaissent aujourd'hui les jeunes en France et comment et cet effet cicatrice notamment du Covid sur leur destin, enfin de la période de confinement sur leur destin, qui a été très marqué. On voit en termes de santé mentale, en termes de bien-être, on n'est pas encore revenu. Il y a eu une cicatrice énorme, on n'est pas encore revenu au niveau pré-pandémique.
France Culture, question du soir. Matteo Carantin.
C'est évident qu'on se sent sacrifié parce qu'on est la première génération en fait étudiante à devoir vivre complètement cloisonnée. On a nos cours en distanciel et tous les lieux dans lesquels on avait l'habitude de se regrouper sont fermés. Donc il n'y a plus aucun lien social et c'est super compliqué en fait de devoir faire de nouvelles rencontres, que ça soit d'un point de vue sentimental ou amical. C'est vrai qu'on ne peut plus se retrouver entre jeunes et on a l'impression d'être un petit peu privé de notre jeunesse. De plus, on est jeune, on a envie de découvrir le monde et de voyager, et là encore, c'est pas possible.
Vous êtes bien sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée ce soir à la lutte et à la paix des âges. Et on vient d'entendre ce qu'était en train de nous décrire Cécile Van de Velde, c'est ce sentiment de sacrifice pendant le Covid. Alors, moment de sacrifice, mais aussi moment de solidarité, Erwan Tison.
Oui, et puis surtout un moment d'inconnu. Hein. Enfin, rappelez-vous, à l'époque, on a tous accepté docilement le confinement parce qu'on savait pas du tout face à quoi on était. Puis la France n'était pas le seul pays à le faire. Hein. On est 80% des pays du monde ont cloisonné. Donc, oui, effectivement, a posteriori, on se dit qu'effectivement, ça a été un mouvement de solidarité des jeunes, en tout cas des bien portants, face aux personnes qui étaient un peu plus fragiles et qui pourraient du coup appeler, sûrement l'économiste me dit, un retour d'ascenseur budgétaire en se disant effectivement qu'il faudrait peut-être accepter de réorienter un petit peu, rééquilibrer en tout cas l'équilibre générationnel en dépensant un peu moins pour nos pensions de retraite et un peu plus justement pour des dépenses d'avenir qui favoriseraient un peu plus la croissance de ces jeunes-là. Parce que on parlait avant de la comparaison entre générations. Ce qui est assez grave, c'est que ce débat-là, on l'aura plus dans 20 ans. Parce que les chiffres que vous avez donnés avant sur la différence du niveau de vie, dans 20 ans, ils vont disparaître. On va assister, dans 30 ans, ce nous dit le Conseil d'orientation des retraites, on va assister à un phénomène qu'on pensait avoir complètement disparu, c'est celui du retour des retraités pauvres. C'est-à-dire que la génération, c'est pour ça que je parlais avant de génération X, Y, la génération X et un petit peu de la génération Y, quand ils vont arriver en retraite, non seulement ils auront cotisé près de plus d'un tiers de leur revenu brut en pension de retraite, mais eux, ils vont connaître justement la paupérisation très forte. Pourquoi ? Parce qu'ils vont arriver dans un moment où ils n'auront pas fait assez d'enfants, donc mécaniquement la pyramide des âges sera très fortement déséquilibrée, et donc du coup ils vont se retrouver en fait, même si on sanctuarise les 14% de PIB qui sont aujourd'hui la part des dépenses publiques allouées aux retraites, même si on le sanctuarise, ils auront des pensions de retraite qui seront 30 à 40% en relatif inférieures à ce qu'ont eu leurs parents. Donc on, en fait, c'est pas la lutte des âges.
Ce que vous décrivez là, c'est si on considère un pays comme la France, où les gens continueraient à faire le nombre d'enfants qu'ils sont en train de faire, sans immigration, sans autre financement de la retraite, c'est-à-dire en l'état actuel des choses, sans...
J'enlève tous les conditionnels que vous avez mis, c'est pas si... Ça, la conditionnalité, elle va concerner ma génération à moi. Pour la génération X et Y, on le sait, il n'y aura pas assez de gens pour payer leur pension. Parce que, à moins qu'on fasse des enfants cette année, qu'ils aient tous une poussée de croissance comme dans la série V, et qu'ils soient sur le marché du travail dans 2 ans, c'est impossible, ou alors qu'on ait une politique d'immigration qui soit beaucoup plus volontaire que ce qu'on a aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tous les autres pays du monde aussi ont une baisse de la natalité. Donc au bout d'un moment, les bras, il va falloir aussi les chercher quelque part. Donc vous avez plusieurs solutions. Vous avez le Japon, par exemple, qui robotise énormément, qui se dit « j'ai plus de bras ». Eux, ils sont plutôt hermétiques à la migration, donc eux, ils robotisent énormément. Mais donc tout ça pour dire que ce débat-là, effectivement, on revient dans 20 ans autour d'une soirée aussi agréable que celle-ci, on aura plutôt le débat inverse. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aider les retraités qui sont devenus de plus en plus pauvres ? Le problème, c'est qu'en fait, on a cette parenthèse enchantée qui a été les baby-boomers, qui ont rompu, encore une fois, sans jugement de valeur, une parenthèse enchantée tout au long de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont connu ni la guerre, ils ont connu l'hyperinflation qui leur a permis de devenir propriétaires en remboursant leur logement en l'espace de quelques années grâce à de la monnaie de singe. Ils ont eu de la croissance, des fois à 2 chiffres. Ils ont eu un taux d'emploi qui était extrêmement important, un taux de chômage très faible. Et en plus de ça, ils ont connu les progrès de la médecine qui fait qu'ils vivaient quasiment 25 ans plus que leurs parents. Et ils se retrouvent aujourd'hui à la retraite avec effectivement un pouvoir d'achat tel qu'ils ne l'ont jamais espéré. En plus, en partant très tôt grâce aux décisions de M. Mitterrand, donc ils sont partis à 60 ans, voire 55 ans dans certains cas de pré-retraite. Et quelque part, ils se retrouvent en plus à hériter de manière assez tardive. Donc quand ils ont eu cette manne-là, ils sont arrivés à la retraite, ils ont hérité de leur part. Donc ils se retrouvaient extrêmement riches, en bonne santé, avec une profusion de loisirs, etc. Donc ce ne serait pas normal de demander à cette génération-là de faire un effort, et pas aux vieux à venir.
Alors, ne parlons plus des retraites, s'il vous plaît, mais plutôt voilà de qu'est-ce qu'il serait possible de faire. Vous disiez tout à l'heure, Cécile Van de Velde, et puis je vais vous donner la parole, Serge Guérin, que finalement, les jeunes avec lesquels vous travaillez dans vos enquêtes, dans vos études, eh ben, ils ne sont pas en colère contre cette génération privilégiée que vient de décrire Erwan Tison, mais plutôt contre le système. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, ben, en fait, c'est vrai que ça se traduit, sauf quelques mouvements plus activistes, etc., mais en général, cette frustration générationnelle se traduit plutôt dans une colère contre le système, ou alors comme colère très silencieuse, parfois larvée, c'est-à-dire le sentiment parfois d'être abandonné, de pas avoir son mot à dire, ou de pas avoir suffisamment de place. Et je crois que la question politique est centrale. On parlait de gérontocratie, d'autres sociétés vont parler de pouvoir gris. C'est pas la question d'accuser les générations aînées, parce que je crois que par exemple, même la génération de baby-boomers dont on parle, a de plus en plus conscience de ses privilèges, et de moins en moins regarde avec moins en moins d'ironie les plus jeunes, comprennent que les difficultés sont vécues. Donc c'est pas pour les opposer, mais il y a un déséquilibre dans le poids politique. Et je crois que la question de remettre la voix des jeunes au centre des politiques, au-delà des grands discours préélectoraux, et de faire vraiment suivre ça par des politiques d'ampleur, transversales, à la fois économiques, sociales, politiques, multileviers, des vrais actes forts, des vrais messages symboliques forts, qui disent oui, vous pouvez être un moment dans ces décennies-là, la priorité. Pour une fois, parce que c'est finalement les politiques, c'est vrai que les jeunes ne sont jamais la priorité. Il y a quelques petites mesurettes, et quand je parle des jeunes, c'est plutôt des générations à venir, c'est structurel. Et donc par exemple, là, une idée qui fait son chemin dans le monde face à cette question du poids politique des jeunes, c'est le vote à 16 ans. De rabaisser l'âge du vote pour pouvoir laisser peut-être
pour plus augmenter de place,
la part d'électeurs plus jeunes, et donc la part
des jeunes générations. Il y a quand même 41% des 18-24 ans qui sont abstentionnistes, en tout cas qui s'abstenaient au second tour. Est-ce que élargir l'assiette du nombre de votants résout la question du nombre d'électeurs effectifs.
Ça peut participer à une forme. On voit des jeunes aussi, une jeune génération qui arrive, qui est extrêmement informée, très numérisée, très informée, qui a son mot à dire. Et je crois que même s'il reste un parce que l'abstention, il y a beaucoup d'abstention volontaire chez les jeunes.
Serge Guérin, vous ne semblez pas convaincu par cette proposition de Cécile Van de Velde. Quelle autre proposition ? Alors rapidement là-dessus.
Il y en aurait d'autres. Mais
en plus, c'est bien, c'est le droit de vote à 16 ans, ça coûte rien, donc ça fait plaisir. Mais il faut le mettre à 2 ans alors. Là, du coup, on va vraiment rééquilibrer, si c'est ça. Si on pense que c'est ça le problème.
On peut au moins attendre l'accès à la parole, si vous le voulez bien.
Mais même pas, pourquoi ? Enfin, voilà, faut y aller. Je pense que c'est vraiment se faire plaisir avec ça, mais bon, c'est, à mon sens, c'est vraiment pas le sujet. Il y a plein de... Ah, c'est vrai que c'est super intéressant. Alors, on pourrait revenir sur cette vision enchantée, tout ça. Bon,
non, voilà, s'il vous plaît. Quelle solution ?
Alors, quelle solution ? D'abord, il n'y a pas évidemment une solution, puis je ne les ai pas toutes, évidemment. Première truc, je vais dire... quelque chose, ça va pas plaire et tout ça, je crois qu'il faut travailler plus. Plus longtemps.
Vous allez revenir sur les retraites.
Entre autres, mais pas seulement. C'est aussi travailler plus longtemps.
Et le taux d'emploi.
C'est le taux d'emploi des seniors, des jeunes, parce que 25% à 25 ans n'ont toujours pas travaillé. C'est très bien, je suis prof dans le supérieur et tout ça, il en faut. Mais il y a aussi un moment donné où peut-être que si on commence à travailler à 16 ou à 18 ans, c'est pas idiot non plus. Il y a plein de gens, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas besoin de faire des études ou parfois après c'est un peu garage, quoi. Donc voilà, c'est favoriser le travail des femmes, des gens touchés par le handicap, des jeunes, des seniors et d'une partie, vous parliez de l'immigration, c'est bien gentil, enfin 50% des immigrés légaux sont au chômage. Donc là aussi, peut-être être aussi un peu plus sélectif sur l'immigration et que ces gens-là travaillent plus. Rien que tout ça, on contribue un peu, ça ne suffit pas. Deuxième élément, la France, pendant des années, on s'est gargarisé, ah non mais nous on travaille moins que les autres, mais on a une super meilleure productivité. Notre productivité, elle baisse par rapport à tous les autres pays équivalents. Donc peut-être travailler un petit peu sur la notion de productivité. C'est-à-dire aussi, sans doute, en termes de formation, et des formations qui soient plus utiles, mieux accompagnantes, et ainsi de suite. Et rien que sur ces deux éléments-là, il y a des choses à faire. Troisième élément, bazar de sort, c'est cette histoire de dénatalité, c'est quand même un drame. On n'a pas trouvé mieux que faire une loi pour tuer les gens plus vite. En revanche, on fait rien sur la natalité. On est quand même en train de se suicider. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est comment
parce
donner.
Que là, on mélange beaucoup de.
Ben oui, mais moi, j'ai été fasciné. On fait ça d'un côté, et de l'autre côté, on travaille pas sur comment. On va pas donner envie aux gens de faire des enfants en leur disant juste faut les faire, on va vous donner 100 balles. Ça marche pas du tout comme ça. Il y a la question du logement, par exemple. Il y a plein d'éléments. Mais en tout cas, se dire.
D'une politique
ça doit
de la
être
petite
priorité.
Enfance, on l'a abordé dans une émission hier, justement.
Ah bon, je
on
ne savais pas.
Rendu compte de l'importance de la petite enfance dans la politique de la ville. Pardonnez-moi
voilà,
de vous interrompre,
voilà,
Serge Carras,
parce qu'il reste
peu de temps
pour. Question. Donc, le travail, la natalité, la productivité, l'accompagnement, la formation et tout ça. Voilà. Il y a plein d'enjeux là-dessus. Et sans doute aussi que. Les robots, tout ça, bah, y a tous ces éléments-là.
Est-ce que, voilà. Au-delà des notions économiques, du travail, vous avez dit de la natalité, il y a aussi une question, peut-être rapidement, Cécile Van de Velle, de favoriser, remettre en place le dialogue entre les générations, refaire peut-être du lien intergénérationnel.
Mais il existe.
Oui, le lien intergénérationnel, par exemple, on fait ministère de la jeunesse et des sports, ministère de la vieillesse, etc. Moi, je crois qu'il faudrait, par exemple, penser transversalement les questions, faire un ministère des parcours de vie et des générations, parce que justement, on voit bien dans notre discussion, on le voit que les choses doivent être pensées ensemble.
On l'a proposé sous le gouvernement Jospin.
Pour penser justement,
s'il vous plaît, laissez la parole à Cécile Van de Velle, s'il vous plaît.
Et sur le lien intergénérationnel, oui, je crois que c'est important, mais moi, je crois qu'il y a plus important, c'est de restaurer ce qui manque, c'est l'espoir des politiques qui restaure l'espoir. Et donc, ça va effectivement par des choses aussi. L'espoir, ça va avec une sécurité existentielle. Donc, refondre certaines aides, par exemple. Mais d'investir dans des secteurs d'avenir, corriger les problèmes de logement. Donc, tout ça, pour moi, ça va ensemble. Et c'est pas des petites mesures qui vont juste faire des petits pansements sur des jambes de bois. Il faut vraiment, à mon avis, changer de paradigme pour aller vers des politiques multileviers et en même temps qui puissent restaurer les perspectives. Parce que c'est ça qui manque aussi en termes d'affect.
Alors, moi, je vous propose de parler d'affect, justement, une petite respiration dans ce débat, c'est celle que nous propose Alice Chavaran, qui est stagiaire de l'émission et qui est elle-même en colocation intergénérationnelle. Elle interroge donc Geneviève.
Eh bien voilà, je m'appelle Geneviève, j'ai 91 ans et demi passés. Mes enfants ne veulent pas que je reste seule dans l'appartement. Je suis trop vieille, il n'y a pas à tortiller. Je trouve que la colocation intergénérationnelle est très amusante, très impromptue. C'est plus prudent d'avoir une jeunesse enthousiaste, dynamique, entraînante. Je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui est éminemment adaptable. C'est ça que j'apprécie, qu'on respecte l'une le point de vue de l'autre et qu'on essaye de transmettre ce qu'on trouve important. De toute façon, il faut vivre avec son époque. Si j'ai besoin d'aide, c'est mieux que ce soit une jeunesse qui vienne à mon secours qu'une autre vieille comme moi, qui ne ferait que peser davantage et qui n'aiderait en rien du tout.
Alors voilà, peut-être, Awan Tison, c'est ça, c'est se rappeler que les vieux, pour parler comme Geneviève que l'on vient d'entendre, ils ont besoin des jeunes pour vivre avec.
Oui, oui, mais cet exemple-là est touchant. Et puis de toute façon, vous savez, la plupart des jeunes, même qui se plaignent de leur situation financière, ils aiment profondément leurs grands-parents. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. La question, c'est comment est-ce que justement je subis cette situation ? Pourquoi ? Et comment je deviens acteur plutôt que spectateur ? Cet exemple-là est très intéressant, ça se multiplie. La question, c'est quelle est la part de subi justement dans cet exemple-là ? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, s'ils sont obligés d'aller en colocation intergénérationnelle, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils ne peuvent pas se loger par eux-mêmes. Et de l'autre côté, si les personnes âgées, elles ont besoin d'avoir un jeune chez elles, c'est parce qu'il n'y a plus d'aide-soignants et il n'y a plus d'infirmières à domicile. Parce que ça coûte beaucoup trop cher aujourd'hui de se les payer, parce que les salaires sont trop peu intéressants, justement. Et en fait, on revient toujours sur la même question. Donc, parler des solutions. Moi, je laisse aux sociologues et aux politologues les questions du droit de vote, etc. Ce n'est pas du tout mon champ d'analyse. Mais je suis persuadé qu'on ne parviendra pas à restaurer le dialogue entre les générations et, je pense, à redorer notre indicateur principal dans la confiance en l'avenir, qu'est la natalité, si on n'arrive pas à recréer les conditions économiques dans lesquelles, justement, la génération qui prospère le plus aujourd'hui, celle des baby-boomers, a évolué. Et c'était quoi ? C'était tout simplement un taux de croissance très important, une productivité très importante et des investissements qui étaient très importants. Seulement, à l'époque, effectivement, il y avait des choix publics qui étaient faits, qui étaient de tout miser sur les infrastructures publiques. C'est là où on a développé le parc nucléaire, c'est là où on a développé le parc automobile, le parc aéronautique, on a développé des innovations à tour de bras. Et effectivement, à l'époque, les retraités étaient sacrifiés. On acceptait que les retraités, à partir de 70 ans, restent dans des mouroirs ou dans des sanatoriums et qu'ils y finissent leur vie un peu dans le plus grand anonymat. Et on a créé la France est devenue la cinquième puissance mondiale à ce moment-là. On pourrait peut-être trouver un point d'équilibre de se dire on garde cet apport gérontocratique, héritage de ces années 2020, mais on essaie de recréer les conditions de la puissance qu'on a connue avant. Et ça passera que par l'adaptation de nos structures au monde dans lequel on est. Et ça ne passera pas que par des investissements. Et pour ça, c'est pour ça qu'il faut arbitrer aujourd'hui. Arrêter peut-être d'indexer certaines pensions de retraite et investir un peu plus.
C'est dans le budget 2026, hein, la fin de l'indexation.
Alors c'est la moitié de l'indexation. C'est-à-dire qu'on fait 2 milliards d'économies. Je rappelle qu'on a fait 25 milliards par an. C'est-à-dire que sur 10 ans, on aura augmenté de 250 milliards d'euros les dépenses de retraite. C'est à peu près deux fois ce que nous coûte le parc nucléaire.
Il nous reste une minute d'émission, Cécile Van Devel. Vous souhaitez réagir ?
Oui, bah en fait, j'adhère complètement à ce qui est dit. Et pour revenir sur le lien intergénérationnel, c'est vrai qu'il se joue. C'est que cette idée du conflit entre générations ou des tensions entre générations, c'est une fausse idée. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est structurel. C'est qu'il faut penser structurellement la répartition de nos richesses. Alors, bien sûr, il y a des conflits de valeurs, bien sûr, ok, boomer, bien sûr. Mais c'est la question, finalement, de mieux penser ensemble la question sociale et la question des générations, ça passe effectivement par exemple des observatoires de l'équité générationnelle qui puissent mieux comprendre la répartition de nos richesses. Le ratio de nos dépenses a clairement balancé ces dernières années du côté des générations aînées. C'est pas le cas dans toutes les sociétés et on voit que justement c'est un facteur de croissance. Donc réfléchissons même aussi très concrètement au-delà des conflits de valeurs, il y a vraiment des politiques publiques qui sont possibles. Par exemple aux États-Unis, ça a été finalement avorté, mais ils ont commencé à annuler la dette étudiante partiellement, mais ça permettait de lever certaines frustrations de la jeunesse et de restaurer de l'espoir générationnel.
Une politique pour la jeunesse et peut-être aussi repenser la vieillesse. Merci à vous trois pour ce débat animé et passionnant. Serge Guérin, sociologue, je rappelle votre livre. Et si les vieux aussi sauvaient la planète aux éditions Michelon, janvier 2024. Erwan Tison, économiste chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg. Cécile Van Develde, sociologue, professeur à l'université de Montréal, où vous direz, vous occupez des inégalités sociale et des parcours de vie. L'émission de ce soir a été préparée par Théa Corler. Merci à Alice Chavaran pour son premier reportage sur France Culture. À Loïse Guérin à la programmation. Merci également à toute l'équipe. Paul Wagnerter, Maud Yaïch, Vivian Lecuivre à la réalisation, à la technique ce soir, l'ami Ludovic Auger. Quant à nous, rendez-vous demain pour une autre question du soir consacrée à la paix fragile en République démocratique du Congo. Et en attendant demain, bonne soirée sur France Culture.